Honoré de Balzac. Illusion perdue. Cinquante. Quelques jours après la réclusion de Séchard, Petit Claud était venu trouver le grand Cointet à sa papeterie. « J'ai fait de mon mieux, lui dit-il. David s'est mis volontairement dans une prison qui nous est inconnue, et il y cherche en paix quelques perfectionnements. Si vous n'avez pas atteint à votre but, il n'y a pas de ma faute. Tiendrez-vous votre promesse ?»« Oui, si nous réussissons, répondit le grand Cointet. Le père Séchard est ici depuis quelques jours. Il est venu nous faire des questions sur la fabrication du papier. Le vieil avare a flairé l'invention de son fils. Il en veut profiter. Il y a donc quelque espérance d'arriver à une association. Vous êtes la voix du père et du fils. Ayez le Saint-Esprit de les livrer, reprit Petit Claud en souriant. Oui, répondit Cointet. Si vous réussissez, ou à mettre David en prison, ou à le mettre dans nos mains par un acte de société, vous serez le mari de Mademoiselle de La Haye. Est-ce bien là votre ultimatum ? Dit Petit Claud. Yes, fit Cointet, puisque nous parlons des langues étrangères. Voici le mien en bon français, reprit Petit Claud d'un ton sec. Ah ! Voyons, répliqua Cointet d'un air curieux. Présentez-moi demain à Madame de Sénonches. Faites qu'il y ait pour moi quelque chose de positif. Enfin, accomplissez votre promesse. Ou je paie la dette de Séchard et je m'associe avec lui en revendant ma charge. Je ne veux pas être joué. Vous m'avez parlé net, je me sers du même langage. J'ai fait mes preuves. Faites les vôtres. Vous avez tout, je n'ai rien. Si je n'ai pas de gage de votre sincérité, je prends votre jeu. » Le grand Cointet prit son chapeau, son parapluie, son air jésuite, et sortit en disant à Petit Claud de le suivre. « Ah, vous verrez, mon cher ami, si je ne vous ai pas préparé les voies, » dit le négociant à l'avoué. En un moment, le fin et rusé papetier avait reconnu le danger de sa position et vu, dans Petit Claud, un de ces hommes avec lesquels il faut jouer franc jeu. Déjà, pour être en mesure et par acquis de conscience, il avait, sous prétexte de donner un état de la situation financière de Mademoiselle de La Haye, jeté quelques paroles dans l'oreille de l'ancien consul général. « J'ai l'affaire de Françoise. » Car avec 30 000 francs de dot, aujourd'hui, dit-il en souriant, une fille ne doit pas être exigeante. Nous en parlerons, avait répondu Francis du Hautoy. Depuis le départ de Madame de Bargeton, la position de Madame de Sénonches est bien changée. Nous pourrons marier Françoise à quelque bon vieux gentilhomme campagnard. Et elle se conduira mal, dit le papetier en prenant son air froid. Mariez-la donc à un jeune homme capable, ambitieux, que vous protégerez, et qui mettra sa femme dans une belle position. Nous verrons, avait répété Francis. La marraine doit être avant tout consultée. À la mort de M. de Bargeton, Louise de Nègrepelisse avait fait vendre l'hôtel de la rue du Minage. Madame de Sénonches, qui se trouvait petitement logée, décida M. de Sénonches à acheter cette maison, le berceau des ambitions de Lucien, et où cette scène a commencé. Zéphirine de Sénonches avait formé le plan de succéder à Madame de Bargeton dans l'espèce de royauté qu'elle avait exercée, d'avoir un salon, de faire enfin la grande dame. Une scission avait eu lieu dans la haute société d'Angoulême entre ceux qui, lors du duel de M. de Bargeton et de M. de Chandour, tinrent qui, pour l'innocence de Louise de Nègrepelisse, qui, pour les calomnies de Stanislas de Chandour. Madame de Sénonches se déclara pour les Bargeton, et conquit d'abord tous ceux de ce parti. Puis, quand elle fut installée dans son hôtel, elle profita des accoutumances de bien des gens qui venaient y jouer depuis tant d'années. Elle reçut tous les soirs, elle l'emporta décidément sur Amélie de Chandour, qui se posa comme son antagoniste. Les espérances de Francis du Hautoy, qui se vit au cœur de l'aristocratie d'Angoulême, allaient jusqu'à vouloir marier Françoise avec le vieux monsieur de Sévrac, que madame du Brossard n'avait pu capturer pour sa fille. Le retour de madame de Bargeton, devenue préfète d'Angoulême, augmenta les prétentions de Zéphirine pour sa bien-aimée filleule. Elle se disait que la comtesse Sixte du Châtelet userait de son crédit pour celle qui s'était constituée son champion. Le papetier, qui savait son Angoulême sur le bout du doigt, apprécia d'un coup d'œil toutes ces difficultés. Mais il résolut de se tirer de ce pas difficile par une de ces audaces que Tartuffe seul se serait permise. Le petit avoué, très surpris de la loyauté de son commanditaire en chicane, le laissait à ses préoccupations en cheminant de la papeterie à l'hôtel de la rue du Minage, où, sur le palier, les deux importuns furent arrêtés par ces mots. « Monsieur et madame déjeunent. » « Annoncez-nous tout de même, » répondit le grand Cointet. Et, sur son nom, le dévot commerçant, aussitôt introduit, présenta l'avocat à la précieuse Zéphirine, qui déjeunait en tête à tête avec M. Francis du Hautoy et Mademoiselle de La Haye. M. de Sénonches était allé, comme toujours, ouvrir la chasse chez M. de Pimentel. « Voici, madame, le jeune avocat avoué de qui je vous ai parlé, et qui se chargera de l'émancipation de votre belle pupille. » L'ancien diplomate examina Petit Claud, qui, de son côté, regardait à la dérobée la belle pupille. Quant à la surprise de Zéphirine, à qui jamais Cointet ni Francis n'avaient dit un mot, elle fut telle que sa fourchette lui tomba des mains. Mademoiselle de La Haye, espèce de pigrièche à figure rechignée, de taille peu gracieuse, maigre, à cheveux d'un blond fade, était, malgré son petit air aristocratique, excessivement difficile à marier. Ces mots, père et mère inconnus de son acte de naissance, lui interdisaient en réalité la sphère où l'amitié de sa marraine et de Francis la voulait placer. Mademoiselle de La Haye, ignorant sa position, faisait la difficile. Elle eût rejeté le plus riche commerçant de L'Houmeau. La grimace assez significative inspirée à Mademoiselle de La Haye par l'aspect du maigre avoué, Cointet la retrouva sur les lèvres de Petit Claud. Madame de Sénonches et Francis paraissaient se consulter pour savoir de quelle manière congédier Cointet et son protégé. Cointet, qui vit tout, pria M. du Hautoy de lui accorder un moment d'audience et passa dans le salon avec le diplomate. « Monsieur, lui dit-il nettement, la paternité vous aveugle. Vous marierez difficilement votre fille. » Et dans votre intérêt à tous, je vous ai mis dans l'impossibilité de reculer. Car j'aime Françoise, comme on aime une pupille. Petit Claud sait tout. Son excessive ambition vous garantit le bonheur de votre chère petite. D'abord, Françoise fera de son mari tout ce qu'elle voudra. Mais vous, aidé par la préfète qui nous arrive, vous en ferez un procureur du roi. Monsieur Milot est nommé décidément à Nevers. Petit Claud vendra sa charge, vous obtiendrez facilement pour lui la place de second substitut. Et il deviendra bientôt procureur du roi, puis président du tribunal, député. Revenu dans la salle à manger, Francis fut charmant pour le prétendu de sa fille. Il regarda Madame de Sénonches d'une certaine manière et finit cette scène de présentation en invitant Petit Claud à dîner pour le lendemain afin de causer affaire. Puis il reconduisit le négociant et l'avoué jusque dans la cour en disant à Petit Claud que, sur la recommandation de Cointet, il était disposé, ainsi que Madame de Sénonches, à confirmer tout ce que le gardien de la fortune de Mademoiselle de La Haye aurait disposé pour le bonheur de ce petit ange. « Oh, qu'elle est laide !» s'écria Petit Claud. « Je suis pris !»« Elle a l'air distinguée, » répondit Cointet. « Mais si elle était belle, vous la donnerait-on ? » ?»« Mon cher, il y a plus d'un petit propriétaire à qui 30 000 francs, la protection de Madame de Sénonches et celle de la comtesse du Châtelet iraient à merveille. D'autant plus que Monsieur Francis du Hautois ne se mariera jamais et que cette fille est son héritière. Votre mariage est fait. Et comment ? Voilà ce que je viens de dire, repartit le grand Cointet en racontant à l'avoué son trait d'audace. Mon cher, Monsieur Milot va, dit-on, être nommé procureur du roi à Nevers. Vous vendrez votre charge, et dans 10 ans, vous serez garde des Sceaux. Vous êtes assez audacieux pour ne reculer devant aucun des services que demandera la cour. Eh bien, trouvez-vous demain à 4h30 sur la place du Mûrier, répondit l'avoué, fanatisé par les probabilités de cet avenir. J'aurai vu le père Séchard, et nous arriverons à un acte de société où le père et le fils appartiendront au Saint-Esprit. Au moment où le vieux curé de Marsac montait les rampes d'Angoulême pour aller instruire Ève de l'état où se trouvait son frère, David était caché depuis 11 jours à 2 portes de celle du pharmacien Postel, que le digne prêtre venait de quitter. Quand l'abbé Marron déboucha sur la place du Mûrier, il y trouva les 3 hommes, remarquables chacun dans leur genre, qui pesaient de tout leur poids sur l'avenir et sur le présent du pauvre prisonnier volontaire. Le père Séchard, le grand Cointet, le petit avoué Maigrelet. 3 hommes, 3 cupidités. Mais 3 cupidités aussi différentes que les hommes. L'un avait inventé de trafiquer de son fils, l'autre de son client, et le grand Cointet achetait toutes ses infamies en se flattant de ne rien payer. Il était environ 5 heures, et la plupart de ceux qui revenaient dîner chez eux s'arrêtaient pour regarder pendant un moment ces 3 hommes. Que diable le vieux père Séchard et le grand Cointet ont-ils donc à se dire ? Pensaient les plus curieux. Oh, il s'agit sans doute entre eux de ce pauvre malheureux qui laisse sa femme, sa belle-mère et son enfant sans pain, répondait-on. Envoyez donc vos enfants apprendre un état à Paris, disait un esprit fort de province. Eh, que venez-vous faire par ici, monsieur le curé ? S'écria le vigneron en apercevant l'abbé Marron aussitôt qu'il déboucha sur la place. Je viens pour les vôtres, répondit le vieillard. Encore une idée de mon fils, dit le vieux Séchard. Il vous en coûterait bien peu de rendre tout le monde heureux, dit le prêtre en indiquant les fenêtres où Madame Séchard montrait entre les rideaux sa belle tête, car elle apaisait les cris de son enfant en le faisant sauter et lui chantant une chanson. Apportez-vous des nouvelles de mon fils, dit le père, ou, ce qui vaudrait mieux, de l'argent. Non, dit Monsieur Marron, j'apporte à la sœur des nouvelles du frère. De Lucien ? S'écria Petit Claud. Oui, le pauvre jeune homme est venu de Paris à pied. Je l'ai trouvé chez Courtois, mourant de fatigue et de misère, répondit le prêtre. Oh, il est bien malheureux. Petit Claud salua le prêtre et prit le grand Cointet par le bras en disant à haute voix : Nous dînons chez madame de Sénonches, il est temps de nous habiller. Et à deux pas, il lui dit à l'oreille : Quand on a le petit, on a bientôt la mère. Nous tenons, David. Je vous ai marié. Mariez-moi, dit le grand Cointet en laissant échapper un sourire faux. Lucien est mon camarade de collège, nous étions copains. En 8 jours, je saurai bien quelque chose de lui. Faites en sorte que les bans se publient et je vous réponds de mettre David en prison. Ma mission finit avec son écrou. Ah ! S'écria tout doucement le grand Cointet, la belle affaire serait de prendre le brevet à notre nom. En entendant cette dernière phrase, le petit avoué Maigrelet frissonna. En ce moment, Ève voyait entrer son beau-père et l'abbé Marron qui, par un seul mot, venait de dénouer le drame judiciaire.
« Tenez, madame Séchard, dit le vieil ours à sa belle-fille, voici notre curé qui vient sans doute nous en raconter de belles sur votre frère. »«
Oh !» s'écria la pauvre Ève, atteinte au cœur. « Que peut-il donc lui être encore arrivé ?» Cette exclamation annonçait tant de douleurs ressenties, tant d'appréhensions, et de tant de sortes, que l'abbé Marron se hâta de dire « Rassurez-vous, madame, il vit. Seriez-vous assez bon, mon père, dit Ève au vieux vigneron, pour aller chercher ma mère. Elle entendra ce que monsieur doit avoir à nous dire de Lucien. » Le vieillard alla chercher madame Chardon, à laquelle il dit « Vous aurez à en découdre avec l'abbé Marron, qui est un bon homme, quoique prêtre. Le dîner sera sans doute retardé. Je reviens dans 1 heure. » Et le vieillard, insensible à tout ce qui ne sonnait ou ne reluisait pas or, laissa la vieille femme, sans voir l'effet du coup qu'il venait de lui porter. Le malheur qui pesait sur ses 2 enfants, l'avortement des espérances assises sur la tête de Lucien, le changement si peu prévu d'un caractère qu'on crut pendant si longtemps énergique et probe, enfin, tous les événements arrivés depuis 18 mois avaient déjà rendu madame Chardon méconnaissable. Elle n'était pas seulement noble de race, elle était encore noble de cœur et adorait ses enfants. Aussi avait-elle souffert plus de maux en ces derniers 6 mois que depuis son veuvage. Lucien avait eu la chance d'être Rubempré par ordonnance du roi, de recommencer cette famille, d'en faire revivre le titre et les armes, de devenir grand. Et il était tombé dans la fange. Car, plus sévère pour lui que la sœur, elle avait regardé Lucien comme perdu le jour où elle apprit l'affaire des billets. Les mères veulent quelquefois se tromper, mais elles connaissent toujours bien les enfants qu'elles ont nourris, qu'elles n'ont pas quittés, et, dans les discussions que soulevaient entre David et sa femme les chances de Lucien à Paris, madame Chardon, tout en paraissant partager les illusions d'Ève sur son frère, tremblait que David n'eût raison, car il parlait comme elle entendait parler sa conscience de mère. Elle connaissait trop la délicatesse de sensation de sa fille pour pouvoir lui exprimer ses douleurs. Elle était donc forcée de les dévorer dans ce silence dont sont capables seulement les mères qui savent aimer leurs enfants. Ève, de son côté, suivait avec terreur les ravages que faisaient les chagrins chez sa mère. Elle la voyait passant de la vieillesse à la décrépitude et allant toujours. La mère et la fille se faisaient donc l'une à l'autre de ces nobles mensonges qui ne trompent point. Dans la vie de cette mère, la phrase du féroce vigneron fut la goutte d'eau qui devait remplir la coupe des afflictions. Madame Chardon se sentit atteinte au cœur. Aussi, quand Ève dit au prêtre « Monsieur, voici ma mère. » Quand l'abbé regarda ce visage macéré comme celui d'une vieille religieuse, encadré de cheveux entièrement blanchis, mais embellis par l'air doux et calme des femmes pieusement résignées, et qui marchent, comme on dit, à la volonté de Dieu, comprit-il toute la vie de ces deux créatures. Le prêtre n'eut plus de pitié pour le bourreau, pour Lucien. Il frémit en devinant tous les supplices subis par les victimes.
« Ma mère, dit Ève en s'essuyant les yeux, mon pauvre frère, est bien près de nous. Il est à Marsac. »«
Et pourquoi pas ici ? » demanda Madame Chardon. L'abbé Marron raconta tout ce que Lucien lui avait dit des misères de son voyage et les malheurs de ses derniers jours à Paris. Il peignit les angoisses qui venaient d'agiter le poète quand il avait appris quels étaient au sein de sa famille les effets de ses imprudences et quelles étaient ses appréhensions sur l'accueil qui pouvait l'attendre à Angoulême.
« En est-il arrivé à douter de nous ? » dit Madame Chardon.
« Le malheureux est venu vers vous à pied, en subissant les plus horribles privations, et il revient, disposé à entrer dans les chemins les plus humbles de la vie, à réparer ses fautes.
« Monsieur, dit la sœur, malgré le mal qu'il nous a fait, j'aime mon frère comme on aime le corps d'un être qui n'est plus. Et l'aimer ainsi, c'est encore l'aimer plus que beaucoup de sœurs n'aiment leur frère. Il nous a rendus bien pauvres. Mais qu'il vienne, il partagera le chétif morceau de pain qui nous reste, enfin, ce qu'il nous a laissé.
Ah ! S'il ne nous avait pas quittés, monsieur, nous n'aurions pas perdu nos plus chers trésors.
Et c'est la femme qui nous l'a enlevé, dont la voiture l'a ramené ? S'écria Madame Chardon. Parti dans la calèche de Madame de Bargeton, à côté d'elle, il est revenu derrière.
« À quoi puis-je vous être utile dans la situation où vous êtes ?»
dit le brave curé qui cherchait une phrase de sortie.
« Eh, monsieur, répondit Madame Chardon, plaie d'argent n'est pas mortelle, dit-on, mais ces plaies-là ne peuvent pas avoir d'autre médecin que le malade.
Si vous aviez assez d'influence pour déterminer mon beau-père à aider son fils, vous sauveriez toute notre famille,
dit Madame Séchard.
Il ne croit pas en vous, et il m'a paru très exaspéré contre votre mari, dit le vieillard, à qui les paraphrases du vigneron avaient fait considérer les affaires de Séchard comme un guépier où il ne fallait pas mettre le pied.
Sa mission terminée, le prêtre alla dîner chez son petit-neveu Postel, qui dissipa le peu de bonne volonté de son vieil oncle en donnant, comme tout Angoulême, raison au père contre le fils.
« Il y a de la ressource avec les dissipateurs, dit en finissant le petit Postel, mais avec ceux qui font des expériences, on se ruinerait. »
La curiosité du curé de Marsac était entièrement satisfaite, ce qui, dans toutes les provinces de France, est le principal but de l'excessif intérêt qu'on s'y témoigne. Dans la soirée, il mit le poète au courant de tout ce qui se passait chez les Séchard en lui donnant son voyage comme une mission dictée par la charité la plus pure.
« Vous avez endetté votre sœur et votre beau-frère de 10 à 12 000 francs, dit-il en terminant. « Et personne, mon cher monsieur, n'a cette bagatelle à prêter aux voisins. En Angoumois, nous ne sommes pas riches. Je croyais qu'il s'agissait de beaucoup moins quand vous me parliez de billets. »
Après avoir remercié le vieillard de ses bontés, le poète lui dit «
La parole de pardon
que vous m'apportez est pour moi le vrai trésor. »